Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
Un jour, quand j'ai commencé à travailler pour Hakiri, je sentais la nécessité de prendre un pseudonyme, de prendre quelque chose de balèze, mais en même temps de rigolo. Et alors ce nom, Moebius, ce que ça recouvrait, tout ça, ça m'a plu, hop, je l'ai pris comme ça, d'une façon complètement inconséquente, hein, insouciante, provisoire aussi. C'était basé sur la sonorité, sur le contexte, etc. Mais il y a une autre façon peut-être d'aborder les choses, qui apparaît après coup, quand j'ai analysé ce que ça signifiait vraiment, et les implications mathématico-philosophiques qu'on pouvait extrapoler à partir de cette figure symbolique, je me suis aperçu que ça collait bien avec mon projet. Je me suis rebaptisé en fonction de ce que j'étais vraiment. Vous voyez ? Alors là, on rentre dans une perception un peu mystérieuse, un peu bizarre, à la limite de la fable, mais pourquoi pas ?
Le ruban de Moebius, c'est un ruban tordu. Donc lui faisait des bandes tordues. Par rapport au travail traditionnel, il l'a trouvé évident d'appeler ça Moebius. Quand on a des œuvres aussi diverses, aussi différentes, qui habitent sous la même identité, je crois que c'est bien de prendre deux identités différentes pour éviter la dichotomie et la folie, quoi.
On savait pas que l'anneau de Moebius, c'était littéralement sa manière de penser, c'est-à-dire un espèce de vide qui contient tout, et que c'était bien un anneau de Moebius, qu'il était un anneau de Moebius. On est dans le mouvement, on est dans la main qui doit aller le plus vite possible pour saisir ce mouvement, et c'est sans fin, c'est un anneau de Moebius. Alors, le Jean Giraud ressemble à ses dessins, c'est-à-dire qu'au niveau de l'aspect physique, je l'ai vu changer 100 fois.
Jean-Pierre Dionnet.
Je fais pas dans l'ordre. Hein. Je l'ai vu à mon mariage, mon premier, en costume blanc, cheveux à la Bogart, et comme il était narcissique, c'était son cadeau, en plus avec toutes les planches des yeux du chat quand même, dans une petite boîte. Parce qu'avant, il était en orange, cheveux hippies, un peu copié-collé zen de Hendrix. Donc, l'aspect physique de Giraud, je l'ai toujours vu changer. Quand il allait voir décoller les soucoupes volantes à Tahiti, je ne l'ai pas suivi, mais il devait être conforme à l'aspect extérieur de la secte. Quand il était à Los Angeles, je ne l'ai pas suivi non plus, et il était très artiste à Hollywood. Mais le premier Giraud que j'ai rencontré, c'était celui qui sortait de l'armée, qui avait encore des cheveux courts, une moustache, les cheveux ont poussé progressivement. Ça devait être soit lors de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs, donc en 68-69, soit chez Druyer, qui faisait salon toutes les semaines, avec l'équipe rebelle de pilotes, ceux qui voulaient faire autre chose, soit ailleurs, je ne sais plus.
Jusqu'au moment où il est mort, il y avait encore des choses qu'il ne connaissait pas de son passé. Il n'avait pas de père, il était à la recherche de son père, il avait une mère qui ne s'occupait pas beaucoup de lui, donc elle l'a abandonné pour la mener au pensionnat pour aller vivre une vie aventureuse.
Numa Sadoul.
Tout ça l'a évidemment beaucoup marqué et a créé chez lui ce besoin permanent de se trouver un père, un gourou, pratiquement jusqu'à sa mort, il a toujours été dans cette quête-là. Il en a trouvé quelques-uns de substitution, mais ça n'a jamais, je pense, rempli le vide qui a dû être le sien durant toute son enfance.
Ce qui est très particulier dans le rapport de Moebius ou de Giraud avec le Mexique, c'est que la motivation principale est familiale. C'est pas seulement un délire de jeune homme qui veut découvrir le nouveau continent. Il va vivre, probablement même avant d'avoir lu, les expériences que Castaneda va décrire à peu près au même moment, mais qui seront connues en France qu'à partir de la fin des années 60. Début des années 70, des expériences d'ordre chamanique, des règlements d'essence. Il y a un choc esthétique avec ces paysages où la main de l'homme n'a pas encore été posée. La nature à l'état vraiment sauvage et à l'état brut, les minéraux, le sable, les rochers, tout cet imaginaire très fort qu'on va retrouver chez Giraud et chez Moebius. Et puis d'autre part, une quête spirituelle qui s'accompagne aussi évidemment de, je crois qu'il l'a raconté, de prises de champignons et de choses comme ça.
J'aurais dû faire 4 ans aux arts appliqués, et au bout de 2 ans, j'ai fait ce voyage au Mexique qui a pris des proportions dévastatrices. J'étais parti pour le temps des vacances et je suis resté. J'ai envoyé mon diplôme et mon sérieux scolaire par-dessus les moulins. Et j'étais trop bien au Mexique et je m'amusais beaucoup, mais j'avais l'impression que que j'apprenais autant, sinon plus, en étant dans ce milieu et dans cette situation qu'en rentrant. Alors j'ai découvert d'abord les artistes en action. J'ai rencontré un peintre qui est devenu par la suite un personnage très important dans l'histoire de l'art mexicaine, qui s'appelait Mario Falcón, qui était un jeune homme à l'époque qui faisait des fresques sauvages dans une maison du centre de Mexico. J'étais le plus jeune, j'étais une petite mascotte de 15 ans, 16 ans, au milieu de jeunes adultes qui avaient 10 ans, généralement une dizaine d'années de plus que moi, et qui étaient déjà dans la sexualité, dans une maturité beaucoup plus grande. Et moi, j'étais ravi d'être accepté et d'être embarqué dans des situations incroyables, quoi.
Oui, on ne peut pas faire mieux. Sex and Drugs and Rock and Roll, ça a été pour lui une révélation absolue, totale. D'ailleurs, ce voyage au Mexique l'a tellement marqué qu'il en a fait un autre par la suite et qu'il en est resté transformé à vie. Les chamans, les sorciers, l'esprit et tout ça dans son dessin, ça s'est conjugué, ça fait une espèce de tout, de faisceau qui nous a créé finalement le Jean Giraud quand il est revenu, qu'on a commencé à connaître.
J'ai commencé à faire de la bande dessinée, je ne me rendais pas compte que je voulais m'exprimer. Ce que je voulais, c'était faire des histoires de cow-boys. Je voulais faire du western, classique, classicos, avec bien les cases les unes derrière les autres, bien. Hein. Puis alors, non, mais si, c'était ça. Hein. Et il y a beaucoup de dessinateurs à l'heure actuelle, leur rêve, c'est pas d'exprimer vraiment, c'est d'arriver à faire de la bande dessinée et de se retrouver dans un journal en train de paraître. Après, ils s'aperçoivent ce qu'il y a derrière.
JG était le grand maître, parce qu'il était le principal fournisseur du journal Spirou, des éditions Dupuis. C'était un homme qui œuvrait dans tous les genres, le réalisme, le comique. C'est un des grands maîtres du western avec Jerry Spring. Et il a formé, vraiment, non seulement il a formé techniquement Jean Giraud, mais il lui a aussi transmis cette espèce d'esprit synthétique indispensable à faire une bande dessinée qui se tienne, avec un découpage cohérent, un suspense savamment dosé à la fin de chaque planche, une histoire à long terme qui doit tenir sur toute une distance. Donc son apport est beaucoup plus que technique. C'est un vrai travail de maître qu'il a opéré sur un jeune élève.
Mais il devient mon professeur, il devient mon papa, il devient mon oncle, il devient mon mari, ma femme, mon frère, mon fils. Puis tout ça, un peu pendant le désordre, hein, bien sûr. En plus, c'est bien parce que il y a la possibilité de trahir aussi, de tuer, de malmener. Et puis d'embrasser tendrement, tout ensemble. Ça a été une expérience émotionnelle, autant que professionnelle, très profonde, très déchirante. Parce qu'évidemment, il y a des moments où ça ne peut être que frustrant, parce que c'est pas vrai, c'est pas un père, c'est pas vrai, c'est pas une mère, c'est même pas un copain, c'est même pas un frère, c'est rien, c'est simplement un contact comme ça, à travers le dessin, à travers l'art. On est encore toujours dans l'ambiguïté et dans l'ubiquité de position.
Blueberry a été vraiment un des piliers du journal Pilote dès sa création. Pilote était une jeune revue qui a été fondée 4 ans plus tôt par Goscinny, Charlier et Uderzo.
Benoît Mouchard.
Jean-Michel Charlier a voulu créer un nouveau western. Il n'y avait pas de western à cette époque-là dans Pilote. Je crois que c'est par l'intermédiaire de Jigé, dont Jean Giraud avait été l'assistant sur un épisode de Jerry Spring, que Charlier et Giraud ont été présentés. Et il y a cette espèce de culture presque paralittéraire importante chez Charlier, qui est complètement visuellement retranscrite par un Giraud qui décide non pas de donner à Blueberry le visage d'un John Wayne ou d'un Randolph Scott ou d'un autre cow-boy hollywoodien, mais d'une vedette de la nouvelle vague. Et c'est là où on voit un petit peu les torsions que Giraud va faire toute sa vie, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de classicisme, mais avec un western dont le héros a pour figure Jean-Paul Belmondo. Je crois que ce qui reste, sans faire injure à la mémoire de Jean-Michel Charlier, c'est le souffle épique des images de Giraud.
Moi, j'ai envie de demander à Jean-Michel Charlier de faire une interview de Giraud.
Ah là là, intéressant.
Oui, mais là, tout de suite, maintenant.
Maintenant, tout de suite, à l'improviser, c'est le métier.
Bah oui, écoutez, là, vous me prenez quand même un peu au dépourvu.
Pose-moi la
une
question.
Une interview.
Je vous ai dit qu'il y aurait des
une
surprises.
Une interview, non, mais pose-moi une interview, ça se prépare. Vous savez comme moi que on ne débarque pas chez quelqu'un sans...
Mais écoute, je suis sûr que tu prépares une question depuis des années et que tu attends la bonne occasion de me la poser.
Non, pas du tout.
Charlier était le co-rédacteur en chef, le co-fondateur du journal Pilote. C'était donc un monument dans ce journal. Leur collaboration a été absolument sans nuages, je crois, jusqu'au bout. Mais il a quand même fait toutes ses classes hein, avec Blueberry. Il a appris tout le métier. Il a appris tout ce qui lui sert, tout ce qui lui a servi dès qu'il a commencé à faire du Möbius. Et il a appris à maîtriser, disons, ce que lui inspiraient les déserts. Les déserts brûlants, les villages assoupis et abrutis par la chaleur... une certaine violence qui était en lui et qui sortait à l'occasion de quelques dessins. Il a appris aussi son coup de crayon, il a appris à se libérer des contraintes, parce qu'il pouvait faire absolument ce qu'il voulait avec son crayon, sa plume, son pinceau.
Si tu veux, une des questions que je pourrais te poser, c'est comment a pu évoluer, si tu veux, ta conception et ton sentiment vis-à-vis de Blueberry au travers de la longue saga qu'on a réalisée ensemble. Hein. Il est certain que ta conception du personnage, ta conception de l'histoire, etc., s'est modifiée, comme la mienne d'ailleurs. Et en fait, c'est un problème qu'on n'a jamais beaucoup abordé et que tu pourrais peut-être aborder savamment.
Il y a deux choses que je peux te dire qui sont curieuses. C'est qu'il y a d'une part un phénomène d'éloignement, mais ce phénomène d'éloignement m'a permis de mieux voir. L'éloignement, il est venu quand j'ai commencé à faire une production sous la signature de Möbius. Avant cette période, qui remonte aux années 73-74, par là, toute mon énergie était consacrée à la réalisation de Blueberry. Hein, je faisais un album de Blueberry, et quand j'avais terminé de faire cet album, qu'est-ce que je faisais ? Je préparais le suivant. Hein, ma vie était rythmée par l'apparition du personnage, de ses satellites, des albums, des histoires, etc. Dès que j'ai commencé à avoir une production parallèle Moebius, le territoire, si je peux dire, de Blueberry s'est restreint un peu comme une peau de chagrin pour arriver maintenant à une égalité et même parfois, on peut le dire, à un retrait. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, Blueberry ne représente plus qu'un tiers peut-être de mon temps de travail, de mon temps de production. Même si c'est un tiers qui est très très particulier parce qu'il demande une quantité et une qualité d'énergie tout à fait particulière. Ceci dit, cet éloignement, ça m'a donné une vue plus précise, enfin en tout cas une vue d'ensemble, plus complète du personnage. Alors là, ce serait trop long de raconter tout ce que j'ai vu. Mais j'ai vu deux choses. La première, c'est le parallélisme qu'il y a, ou disons la proximité qu'il y a entre Blueberry et une partie de moi-même. C'est-à-dire Blueberry étant une projection de moi-même. Blueberry, c'est un peu l'image idéalisée de ce que j'aurais voulu être, c'est-à-dire beau, viril, avec la cette chevelure.
J'en suis tout à fait d'accord, parce que Blueberry a pris ses premiers cheveux blancs lorsque tu as commencé à t'argenter.
Voilà, exactement. Mais j'ai idéalisé, parce que Blueberry s'argente. Moi, je me dégarnis.
Bah, j'ai été frappé d'une chose à l'enterrement de Jean Giraud, c'est que le prêtre a dit, vous devez être étonné que cette cérémonie se déroule dans une église catholique, puisque Jean n'était pas de notoriété pratiquant. Et néanmoins, dans les discussions apparemment que Jean Giraud a eues à la fin de sa vie, il disait, je suis un auteur de bande dessinée franco-belge, et donc j'ai des racines avec le catholicisme, puisque bon, que ce soit Hergé, J.G. Ou d'autres, il y a un vrai lien entre catholicisme et bande dessinée belge, surtout, plus que française. Donc probablement que dans Blueberry, il y a un rapport à la tradition, et aussi le désir de faire évoluer le courant principal.
Avec le temps, j'étais forcé de bannir Blueberry. J'étais injuste, mais moi je voulais le pousser à ce qu'il extrait Moebius. Alors moi, j'ai pas du tout le goût des autres. Je préfère la fin quand il y a eu des fuites de Moebius dans Giraud. C'est-à-dire l'album où il est au lit malade, alors que lui est malade et au lit. Je trouve ça incroyable qu'il ait fait 6 albums et qu'il soit forcé de faire un redux en un seul pour que ça soit compréhensible, en étirant le temps. J'adore ça, mais c'est plus du Gire, c'est du Moebius. C'est du Moebius déguisé en Gire. Et la série n'aurait pas pu exister sans Charlier, et on peut dire qu'elle n'existe plus à son niveau de notoriété après Charlier. Parce que Charlier lui a amené le monde extérieur. Et lui, le monde extérieur, ça n'a jamais été son truc.
L'ovale d'une roue en perspective de chariot, les proportions d'un cheval par rapport à son cavalier, le rendu de la végétation, la logique de l'architecture d'une montagne ou de la caillasse d'une montagne.
Charles Berberian.
On voit bien que Giraud s'efforçait de ne pas tricher avec ça, alors que Moebius, c'est que de l'envolée, c'est que de la pesanteur. Donc comment rester terrien quand on n'a qu'une seule envie, c'est de contredire les lois de la gravitation. Et Moebius, c'est la contradiction des lois de la gravitation. C'est un envol du trait, de l'espace, des décors, des personnages. C'est mélanger les animaux et les humains. C'est créer une nouvelle flore, une nouvelle faune.
Il sentait vraiment que ce Blueberry, avec ses habitudes, c'est une série, c'est quand même une routine, ça allait finir par le bouffer complètement. C'est pour ça qu'à un moment, il a laissé exploser sa face sombre, son Moebius. Je dis sa face sombre entre guillemets parce que très vite, au fil des années, le Moebius est devenu finalement la ligne claire de Giraud en s'épurant, tandis que le Blueberry qui s'est complexifié à fond, c'est devenu la période la plus fouillée, l'œuvre la plus fouillée. Il y a eu un glissement entre le côté classique de la bande dessinée et le côté inventif, alors que finalement le côté inventif est devenu de plus en plus épuré, tandis que le côté classique lui s'enrichissait, se remplissait de plus en plus. Donc la meubusation de Gire et la girification de Meubius ont été parallèles et très, très productifs finalement. Il était, lui, dans le pur produit de la bande dessinée franco-belge de l'époque, hein. Et Mad, qui n'est pas spécialement seulement un journal de bande dessinée, c'est un magazine d'humour et de déconnade, mais extrêmement sérieux, fait très sérieusement avec de très grands dessinateurs, de très grandes plumes. Et là-dedans, il est tombé à pieds joints et il a découvert des gens comme Elder, Kurtzman, quelques grands maîtres comme ça qui ont marqué définitivement. Il y en a un autre, c'est Gottlieb, hein, qui a été aussi extrêmement marqué par Mad.
Il s'alimentait en absorbant le style de Finlay, les petits points, en absorbant le style de Doré, et puis après il passait à autre chose. Je crois que ce qui l'a le plus marqué, c'est Jack Davis, le dessinateur de Mad, parce qu'il a fait à un moment des copier-coller de Jack Davis qui avait une vitalité extraordinaire. Mais après, il passait à autre chose, c'est-à-dire qu'il absorbait leurs dessins et pour partie leur âme, je pense, ou ce qu'il envoyait de leur manière de voir le monde. Il absorbait leur regard sur le monde et il le faisait sien, et puis il passait à autre chose. Mais là encore, pas d'hierarchie, parce qu'il absorbait aussi bien un dessin qu'un metteur en scène ou qu'un photographe éventuellement. Ou un très mauvais illustrateur à l'huile de romans de cœur.
Et puis, comme ça, j'ai eu quelques sources de référence qui n'étaient pas trop connues, ce qui fait que mon dessin a eu l'air de débarquer de nulle part dans les années 70, hein, quand j'ai commencé à faire du Meubius surtout. Et puis, bon, ben, y a la composante personnelle aussi, hein, une espèce d'instinct qui est un mélange assez imbriqué de délire, de laisser aller conceptuel, mais en même temps de rigueur graphique, par exemple, d'un souci de la réalité, de l'anatomie. Et en même temps, c'est plutôt une préoccupation qu'une connaissance. Ma connaissance en anatomie, contrairement aux apparences, est plutôt faible. Par contre, ma préoccupation pour l'anatomie est très forte. Vous voyez, j'essaye désespérément et encore maintenant d'être exact. Mais j'ai jamais vraiment voulu apprendre les choses par cœur d'une façon réelle. Alors, ce qui fait que je suis tout le temps en train de bidouiller un vague souvenir de ce qu'est la réalité.
La déviation, c'est-à-dire qu'on dévie de la réalité pour rentrer dans un univers différent. Mais on dévie aussi de cette bande dessinée classique pour aller dans une bande dessinée qui ne ressemble à rien. Et tout ça dans le contexte de Pilote, qui est le journal de bande dessinée à l'époque que tout le monde lit, que tous les amateurs de bande dessinée lisent et que tous les futurs auteurs de bande dessinée lisent. Donc il se dessine en train de dessiner l'histoire. Il se dessine en train de partir en vacances avec sa famille, mais c'est pas non plus une bande dessinée autobiographique réaliste. Il rentre dans un univers avec des démons, des bestioles. Sa famille qu'il est censé protéger est mise en danger par un environnement démoniaque. Cette liberté dans la mise en page, c'était l'époque, hein, c'est l'époque un peu psyché, un peu pop. On tente des expériences en musique. Et ces gens-là, ces auteurs comme Druyer, comme Moebius, sont en train de casser le moule de la bande dessinée classique.
Alors j'avais quand même cette espèce de foi, on peut dire, mais aussi de croyance, qui est que j'avais un plus, que les gens de la bande dessinée, c'était quand même des... C'était des bons artistes, mais il leur manquait une dimension, il leur manquait l'ambition d'aller vers le cosmique interne. Même si mon style était perçu plus ou moins confusément comme quelque chose qui veut beaucoup, hein, qui veut aller vers de l'inédit, vers du formidable, de la performance, dans la représentation, etc., j'ai pensé masquer quand même, parce que tout en jouant le jeu du professionnalisme orthodoxe, enfin de la normalité, j'étais animé par un féroce désir et une adulation de l'avant-garde. Et alors, en plus, j'avais découvert au Mexique le cannabis, qui pour moi, alors là, était le cœur secret et palpitant de cette perception de l'avant-garde.
C'est mai 68 qui a réveillé un peu les clivages qu'il pouvait y avoir dans une rédaction comme celle-là, parce que c'était quand même toujours foncièrement un journal pour la famille, pour les jeunes, qui ne devait pas dépasser certaines limites, mais il y avait quand même dedans une partie de l'équipe de Harakiri qui avait été récupérée. Il y avait des gens comme Mandrika qui voulait ruer dans les brancards, il y avait Giraud qui ruait dans les brancards, il y avait Gottlieb qui ruait aussi. On a vu apparaître les vrais clivages qu'il pouvait y avoir entre les anciens et les modernes, en gros.
Si Pilote a pu publier Fred, Rezer, Druyer, Moebius, même s'il n'a jamais signé sous le nom de Moebius, mais il a fait La Déviation, qui est quand même presque du Moebius, c'est parce qu'il y avait Astérix, c'est parce que les histoires de Goscinny cartonnaient. Enfin, mais René Goscinny, clairement, il a été assassiné par la génération qu'il a tout de suite suivi. Mais ils avaient, en fait, quand on regarde les différences d'âge, c'était pas énorme. Hein. Ils avaient à peine 10 ans d'écart, donc c'était pas vraiment un père, c'était un grand frère. Mais c'était effectivement une réussite éblouissante. Et de la part de beaucoup d'auteurs de bande dessinée, il y a eu la volonté, je pense, de tuer le père, disons le mot. Et Goscinny est une figure expiatoire dans cette histoire.
On a fait Metal, on a fait Arzak. Qu'est-ce que tu penses de Arzak ?
C'est très bizarre, Arzak, pour moi. C'est quelque chose qui reste encore très adolescent par rapport au travail de Moebius. Mais Moebius, c'est aussi ça. C'est cette part d'adolescence aussi qui est très très présente. Si le western, c'est l'enfance, cette partie-là de Moebius, Arzak, peut-être d'autres histoires que j'ai pas encore en tête, mais on va voir tout à l'heure, peut-être l'Incal, c'est l'adolescence. Il y a cette double page que j'aime vraiment beaucoup, qui est Arzak en premier plan en train de voler sur son oiseau. Et il y a une scène de bataille, Jérôme Beauchienne sous son oiseau et sous lui. Je crois, quand il s'est lancé dans ce projet-là, il avait en tête quelques cases qu'il avait envie de dessiner. Et tout le reste, c'est pour arriver à ces quelques cases. Ou alors à cette double grande page.
Qu'est-ce que tu penses de Arzak ?
Pour moi, ce n'était que la confirmation que j'avais affaire à un artiste majeur. Et c'était la découverte que la bande dessinée pouvait commencer à faire du grand opéra. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment, j'ai voulu faire de l'opéra avec lui. Ça n'a pas pu se concrétiser, mais enfin, c'était ce qui marquait le style de Giraud à cette époque-là, la flamboyance, l'ellipse, les grandes images, les grands véhicules, les costumes formidables.
Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Premier épisode. Dangereuse révision.
C'est un accident, le garage hermétique. C'est quelque chose qui s'est fait de manière totalement spontanée, empirique. Ils avaient lancé cette revue Métal Hurlant, donc avec Dionnet, Farkas, Druyer et Moebius. Et il fallait assurer une présence trimestrielle au début et mensuelle par la suite. Et donc, pour répondre à ce contrat moral passé avec Métal Hurlant et Jean-Pierre Dionnet, qui s'occupait en fait de la revue en tant que rédacteur en chef, Giraud, Moebius s'était lancé dans cette improvisation.
À part Les Cigares du Pharaon d'Hergé, il y a relativement peu d'exemples de bandes dessinées qui soient totalement improvisées. Et quand Moebius commence le garage hermétique, la première case, il ne sait pas encore ce qu'il y aura dans la deuxième. Et surtout, les deux premières pages, il ne sait absolument pas ce qu'il y aura après. Et ça, se lancer dans une espèce d'écriture automatique, c'est impossible de raconter ce que raconte le garage hermétique. D'ailleurs, est-ce que ça raconte réellement quelque chose ? Je suis pas bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est l'image de porte qui s'ouvre vers l'inconnu, et l'inconnu surtout pour Moebius lui-même au moment où il est en train de le faire. Pour le lecteur et pour le major Gruber, évidemment, mais surtout pour Moebius lui-même. Il dessine un explorateur et lui-même est en train d'explorer son inconscient et ce qu'il se cache à lui-même souvent.
C'est un terrain totalement expérimental pour lui. C'est l'aventure de la déviation, mais bon, c'est une carte blanche qui s'étend sur, je crois, 2 ou 3 ans, avec un nombre de pages fluctuant suivant son emploi du temps, sa disponibilité. Donc c'était soit 2 pages, 1 page, soit 6 pages. Et alors là, pour le coup, le style de dessin change parfois, l'allure du major change. Un coup, il est dessiné réaliste, un coup, il est dessiné humoristique avec un gros nez. Un coup, c'est un jeune homme musclé, on dirait qu'il sort d'une bande dessinée de DC ou Marvel. Un autre coup, c'est un explorateur frêle avec une moustache à la Clark Gable. Il n'y a aucune règle. La seule règle, et c'est là où le côté Giro est encore très très présent, c'est la fluidité dans une narration improvisée. Il a tellement travaillé à fluidifier la narration dans Blueberry, qui d'un point de vue purement scénaristique est haché, c'est-à-dire d'une case à une autre dans une page de Blueberry, on a des « et pendant ce temps » à quelques kilomètres de là, et alors il y a quelque chose qui se rompt d'une case à l'autre. On saute d'une situation d'un personnage à un autre dans parfois une page ou une demi-page de Blueberry. Et la technique de découpage de Giraud a rendu fluide cette narration par une science de la mise en scène. Et donc là, il est dans une espèce de science du découpage ou de la narration. Il est hyper à l'aise là-dedans. Donc il fait des plongées, des contre-plongées, des panoramiques introductifs, il s'amuse vraiment, sans retenue.
Le garage hermétique de Jerry Cornelius. Troisième truc.
Le garage hermétique, pour moi, c'est son œuvre la plus accomplie parce qu'elle a plus défaite. C'est-à-dire que le garage hermétique, il a oublié les notions rousseliennes qu'il a eues à un moment, mais qui étaient volontaires, mais il les a redégurgitées plus tard, à sa manière. C'est-à-dire qu'il commence une histoire en changeant de style toutes les 4 pages, où il y a des planches d'un réalisme absolu, sublime et tout, et d'autres à peine esquissées. Et il fait son chef-d'œuvre, qui n'est pas comme La Déviation, où il reprend encore des dessins de Jack Davis en les faisant mieux, et du Finlay. Dans le garage hermétique, il ouvre toutes les portes, il les referme pas. Donc le garage hermétique, c'est l'apogée, parce que le garage hermétique en lui-même est sans fin. Il a fait une suite, mais ça sert à rien de faire une suite, il l'a faite quand même, parce qu'un garage hermétique, c'est accepter de changer sans arrêt de dessin et d'histoire au fil d'une écriture où éventuellement il a oublié ce qui précédait. Ce qui est d'ailleurs arrivé dans le garage, où il y a 2 ou 3... scratch de DJ dont la boucle est abîmée. Il s'en fout, il continue, il va au bout, et après il arrange pas les choses, il laisse rouler. Ouais, c'est le garage, bien sûr.
Ce qui est assez fou, c'est que finalement, ça dure c'est une période relativement brève où il va donner presque tout. Dans Arzak, dans le garage hermétique, dans The Long Tomorrow, qui est une histoire aussi extraordinaire. Et finalement, ce qui va venir après, presque une réécriture, enfin, c'est un peu réducteur, mais l'incal n'est qu'un développement de choses qui ont déjà été trouvées. À partir de la fin des années 70, ni Jean Giraud ni Moebius, pour le grand public, parce qu'après il y a d'autres choses souterraines qu'on connaît moins, mais en tout cas ce qui est paru aux Humanoïdes Associés ou chez Dargo n'est plus révolutionnaire.
Résumé des futurs chapitres. Peu de gags, le mystère ira en s'épaississant.
Et moi, je pense que l'utopie ultime, c'est l'homme nu. L'homme nu qui a intégré complètement la science et qui s'est aperçu que l'extrême sophistication venait de l'utilisation totale des potentiels humains. Alors là, on est dans un délire, parce que l'utilisation totale du potentiel humain, c'est mieux que la roue, c'est mieux que le transistor, c'est mieux que la radio, c'est mieux que n'importe quelle extrapolation ou que n'importe quel progrès matériel. Je pense, par exemple, que dans l'ultime, l'homme sera capable de naviguer vers les étoiles, mais sans avoir besoin de fusée. Il lui suffira d'avoir le feu au derrière, mais psychiquement. Hein.
Son épisode avec le groupe Isozen, qui était une véritable secte, bien qu'il prétende toujours que ce n'était pas le cas, pour lui, a été, c'est pas seulement la recherche du père. La recherche du père, elle est permanente chez lui, mais il en a toujours trouvé. Donc il aurait très bien pu se contenter de Jodorowsky. Mais ça ne suffisait pas. Il lui fallait des pères spirituels qui aillent encore plus loin dans l'exploration de ses propres rêves. Et quand il tombe sur des gens qui lui disent « on parle avec des extraterrestres », ça l'impressionne beaucoup, parce qu'il y avait chez lui un côté extrêmement faible, accessible au bobard des autres, comme l'autre Monsieur Burger qui avait inventé l'instinctothérapie et qui pensait qu'en lui faisant manger d'une certaine façon, il allait presque leur procurer la vie éternelle à tous ses patients, parce que c'était des patients pour lui. Voilà, et chaque fois, il en est sorti pas du tout brisé ni blessé, mais je pense enrichi, parce qu'il avait cette capacité chaque fois à rebondir, à en tirer des tas d'idées pour des œuvres futures ou à venir, ou en cours.
Oui, il avait un peu tendance à se prendre pour un laboratoire. Il pouvait devenir végétarien, instinctivore, mangeant des pommes de terre crues, mangeant du boulgour pendant... Ah, et puis après, disant, je voudrais bien un bon steak. Donc là-dessus, je pense qu'il a pris des risques. Même quand il était malade. Hein. Quand il était malade, il s'est pratiquement guéri d'un cancer en faisant un jeûne avec du jus de betterave pendant 3 mois. Ça a marché une fois, ça n'a pas marché une autre fois. Il était son propre terrain d'expérience. Il a vraiment pris des risques mentaux avec les sectes et tout, qui ont peut-être dynamité sa première famille. Hein. Parce qu'il était vraiment rentré dedans. Et moi, je connaissais les Tahitiens parce que j'ai toujours bien aimé les mauvais garçons qui étaient de l'autre côté. Ils m'ont dit il y avait une secte là-bas à côté de l'île de Brando. Brando m'a raconté aussi. Et il dit on a failli descendre à la machette quand ils ont voulu attraper nos femmes. Il me dit tiens, c'est marrant parce que Jean était de l'autre côté. Il attendait les soucoupes, là, avec la torche branchée sur le ciel, avec des piles pour faire venir les martiens. Alors, est-ce qu'il croyait, est-ce qu'il ne croyait pas? Je ne sais pas. J'arrive pas à savoir.
La race humaine ne comptabilise pas ses composants avec précaution. Elle se lance dans la vie et elle lance dans la bataille de la vie tous ses composants, c'est-à-dire les individus qui la composent, sans l'économiser.
C'est amusant parce qu'au fur et à mesure que vous parlez, oui. J'ai toujours l'impression que vous êtes du point de vue de Dieu ou du point de vue de Sirius. Vous regardez l'air humaine comme on regarde des fourmis.
Tout à fait, oui.
Je vous rappelle que nous sommes des humains là autour de cette table.
Oui, bien sûr. Et moi, je suis pris dedans, vous savez.
Mais on m'avait dit que vous étiez un humain, mais je commence à en douter.
En fait, il n'aimait pas le monde réel tellement. Il a toujours fait son devoir, c'est-à-dire qu'il s'occupait de sa famille, sa première, sa seconde, les deux mélangés. Mais il le faisait par devoir. Lui, il aurait préféré avoir un matelas par terre. Je l'ai vu à un moment avec un matelas par terre, une table à dessin à côté, et que quelqu'un lui monte du canigou à l'heure du déjeuner. C'était vraiment ce qu'on appelle dans la Creuse, quand j'étais jeune, les romanichés, on les appelait des camps volants. Et ben, c'était un camp volant dans l'âme. Et c'est toujours sa famille autour de lui qui organisait une vie possible, parce que lui, sa vie possible, c'était le matelas et le canigou. C'était un clochard céleste, un vrai, qui n'avait aucun désir financier, aucun besoin financier. Il lui arrivait de faire des travaux et de s'apercevoir après qu'il avait signé sans négocier et que ce qui payait les décors qu'il avait fait pour une pièce en Italie, c'était son séjour dans un hôtel de Lombardie. Ah merde, Je croyais que j'étais payé, mais il n'avait pas demandé. Il lui arrivait de signer n'importe quoi, parce qu'il voulait se mettre au boulot. Il lui arrivait aussi de faire les affaires, genre la suite de 13, un album. Très bien payé, mais il l'a accepté parce qu'il voulait à ce moment-là revenir à la BD populaire en souvenir du bon vieux temps. Donc ça l'amusait de torcher un album en 15 jours.
Le dessin était magique, le dessin était mystique, le dessin était révélateur, mais pour lui, le dessin, c'était, comment dire, sa construction, non seulement mentale, mais physique. Jean Giraud était un travailleur absolument phénoménal jusqu'à ses derniers jours. Il travaillait sur des planches, il passait son temps à dessiner, il passait son temps à concevoir des projets, c'était vital pour lui. Quand il était sur une île, sur une île déserte ou sur une île entourée de disciples, ou quand il était dans des centres alimentaires ou je ne sais quoi, il avait toujours tout son matériel, il avait toujours ses projets, il savait très bien où il allait, il savait très bien ce qu'il devait fournir. Et là, c'est vrai que jamais on a vu ses aventures personnelles nuire à son travail.
Il était d'une exigence folle avec lui-même parce qu'il avait l'œil absolu. Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'œil absolu ne veut pas dire la main absolue. Il avait la plus belle main du monde. Mais il était comme Durer ou Michel-Ange, je le mets à ce niveau-là, ou Ingres. Il ne pouvait pas être content, ou Gustave Doré, il ne pouvait pas être content de son travail. Parce que ce qu'il voyait est une perfection impossible à atteindre. C'est pour ça qu'il n'était jamais content. Des fois, j'avais l'impression qu'il avait la main du diable, que sa tête était en train de regarder, je vais dire, une corrida à la télé. C'était pas ça, mais c'était peut-être un macareux à col doré. Et pendant ce temps-là, il dessinait un truc de science-fiction. On avait l'impression que sa main se dirigeait toute seule, qu'elle fonctionnait sans raccord affectif. En fait, on a l'impression que ce que Jigé lui a appris, dessiner sans regarder son modèle, ça s'est transformé à dessiner sans penser à ce qu'on dessine. Alors, certains y ont vu de l'habileté. C'est vrai qu'il pouvait, je crois que c'est Hermann qui a dit ça, faire un cheval en commençant par la queue et le faire parfait en le finissant raccord. Ça, c'est de l'habileté simple. Mais je pense que des fois, sa main s'échappait et que sa main le commandait. Je pense que c'est un peu la patte du singe de W.W. Collins ou de je ne sais plus quel écrivain ou de O'Brien. C'est-à-dire que sa main le dirigeait. Il devait la suivre. Mais parfois, sa main lui disait « on va dessiner maintenant ». Alors, il devait suivre sa main qui se démangeait. Donc, il avait réussi à passer un cap que peu d'artistes passent, c'est qu'il n'avait plus à réfléchir pour dessiner.
Voilà, c'est ça. Mais c'est souvent quelque chose qui est extrêmement relié au présent. À l'instant, à la sensation que j'ai dans une relation entre le papier, la main, l'œil, la mémoire, la sensation d'être. Et mais tout part d'un désir ou d'un rêve ou d'une constatation qui est que nous sommes ou je suis le héros du monde, le héros de la réalité en tant que personne. Et que, en tant qu'artiste, je me donne comme mission de rendre compte de cet héroïsme à être.
Fait des choix volontaires et puis des choix involontaires, on en parlait off. Je pense que Gire s'est nourri, lui, en ne faisant pas de choix. C'est-à-dire que le premier qui lui faisait signe, ça pouvait être un escroc ou un mec formidable, il prenait. Mais que ça soit un type qui avait l'air d'un escroc, qui en était un, ou que ça soit Ridley Scott qui voulait faire un long métrage avec lui, il les mettait sur le même plan. Ce qui fait qu'il n'a pas fait Ridley Scott parce qu'il a peut-être bossé 2 ans avant avec un escroc chinois. qui n'était pas plus chinois que moi d'ailleurs en réalité.
À l'époque, Jodorowsky est un cinéaste effectivement d'avant-garde, de renommée mondiale. John Lennon et d'autres se précipitent aux avant-premières de La Montagne Sacrée, etc. Donc on peut espérer effectivement un film très inspiré. Les dessins que Jean a laissés au producteur Sédou sont, paraît-il, exceptionnels. Mais on peut pas vraiment savoir si ça aurait été un grand film, parce que je crois qu'il était question d'un casting avec Salvador Dali, même je crois justement Orson Welles, Mick Jagger, etc., etc. Enfin bon, ça aurait donné un film monstre et monstrueux a priori. Donc, ce qui est sûr, c'est que cet échec a été fondateur de leur collaboration sur ce qui allait devenir l'Incal, et que donc ça n'a pas été stérile, ça a quand même été producteur d'une œuvre importante.
Le projet de Dune a été un véritable choc et une révélation, un révélateur pour Jean Giraud. D'abord, c'est Jodorowsky qui est venu le chercher, hein, qui trouvait qu'il serait le partenaire idéal pour ce travail. Et là, il a découvert, en travaillant sur Dune, je les ai vus travailler. Moi, c'était quand même extraordinaire, quoi. C'était des parties de ping-pong entre des idées qui se lançaient d'un bout à l'autre, d'un bureau à l'autre, comme des boulettes de papier. Et ça a permis à Jean de mettre son monde en phase avec ce qui était le cinéma, c'est-à-dire les images qui bougent, les grandes aventures, le gigantisme. Et l'histoire de Dune, même si elle est avortée, a été porteuse de toute une génération et de tout un univers créatif. Il y a eu d'autres films qui sont sortis de ces projets avortés, il y a eu des grandes bandes dessinées, il y a eu des grandes œuvres. Donc ça a alimenté tout un imaginaire pendant plusieurs décennies. Et pour Jean Giraud, ça a été brusquement un grand passage vers autre chose.
Cette association avec Jodorowsky, elle a donné ses fruits. On peut pas dire le contraire. Il y a l'Incal. J'aime beaucoup les deux premiers volumes. Je trouve ça vraiment bien. Mais je peux pas m'empêcher de penser à cette histoire qui s'appelle The Long Tomorrow, qui fait 8 pages, dont le scénario est signé par Dan O'Bannon, qui est l'un des deux auteurs de Alien, du scénario d'Alien. Et pour moi, je donne tout l'Incal pour ces pages de The Long Tomorrow qui sont absolument magnifiques. Tant au point de vue de l'histoire qu'à la mise en place de cet univers qui va donner, qui va inspirer Ridley Scott pour Blade Runner. Alors évidemment, c'est toujours comme ça. Enfin, l'Incal, c'est le best-seller de Moebius. C'est ce qui s'est le plus vendu. Hein. Enfin, je veux dire, le garage hermétique, c'est des ventes dérisoires. Arzak aussi, voilà. Donc, le grand public connaît Moebius à travers l'Incal. Donc, rien que pour ça, je suis très heureux que Jodorowsky et Moebius aient fait cet ouvrage.
Alors, un type que je connais me montre un tableau avec une pâte épaisse à la, j'allais dire, Mathieu, le peintre à la mode dans les années Pompidou, avec une signature qui est celle de Jean Giraud. Bon, je l'ai montré à plein de spécialistes de Giraud, tout le monde m'a dit, on voit pas du tout ce que c'est, y compris Mézières et tout. Je suis presque persuadé que c'est lui, qu'il a fait à un moment. Et puis comme ça n'a pas marché, il est passé à autre chose. Je pense qu'il y a encore des pans de Giraud Moebius. Il me disait, j'ai fait des assiettes, je sais plus si c'était pour la galerie Macte, pour des gens qui étaient agiens. Mais en tout cas, les gens des assiettes, je les ai vus, je dis, pourquoi vous faites pas bosser Moebius? Ils disent, ouais, on l'a fait bosser une fois, c'était bien, puis il est jamais revenu. Ah, oh, il a fait des assiettes. Bon.
C'est pas un artiste officiel, Moebius. Peut-être que la fin de sa vie donne cette impression-là, avec les ventes publiques, et puis l'expo à la Monnaie de Paris, l'expo à la Fondation Cartier. Il est resté toute sa vie un auteur alternatif, qui d'ailleurs avait son stand à Angoulême parmi les éditeurs alternatifs.
C'est sûr, je suis en tant que Moebius tout à fait capable de rentrer un matin dans le classicisme et le lendemain dans l'expression tortueuse ou même l'étale de l'art brut, en allant chercher au fond de moi-même des zones, je dirais pas de folie, mais de décalage intense.
Alors, il y a le Moebius qui va devenir éloquent, d'une certaine manière aussi classique, c'est le Moebius de Lincal. Et il y a l'autre qui va rester encore souterrain. Et alors, ce qui est fascinant, c'est de découvrir qu'il va continuer le garage hermétique de manière complètement souterraine. Donc, dès qu'il a 5 minutes, il prend un carnet, il noircit une page, il fait une page du Major Fatal. C'est la preuve d'une énergie et d'une conviction d'un auteur ou d'un dessinateur, d'un artiste, encore à l'écoute de ses besoins et de ses envies. Et assez étonnant, c'est qu'il a encore des besoins et des envies qui le poussent vers ça, quoi. Qui le poussent vers faire des pages. Donc il y a ce livre-là qui s'appelle Le Chasseur des Primes, et il y en a un autre qui s'appelle Major, qui est d'un format plus petit et qui est tout aussi fascinant.
L'importance de la dernière période de Moebius nous apparaît moins parce que ce sont des œuvres qui ont été diffusées à beaucoup moins d'exemplaires et que donc on les a moins partagées. Mais il faut vraiment lire Inside Moebius, qui est d'ailleurs une espèce de rassemblement de ces différents moi, enfin, de ces différents soi, puisqu'il y a tous les personnages qui dialogue avec plusieurs lui-même.
C'est quand même extrêmement émouvant et fort et important de voir une vieille personne, parce que c'est un vieux monsieur qui s'exprime dans ses livres, et il le sait, il le cache pas, il joue pas aux petits jeunes, qui appelle à sa page, à son stylo, il appelle le Giraud de 20 ans, le Giraud de 12 ans, le Giraud de 35 ans, et ils sont tous là. Il s'amuse avec ces personnages qu'il a dessinés. Il y a Blueberry, il y a Arzac. Et il appelle tout ce monde-là avec moins d'emprunt que pourrait laisser présager un tel projet, quoi. C'est pas quelqu'un qui est assis sur une tribune et il va commencer à parler dans le micro avec une voix, avec plein de réverb. Vous savez, moi, Blueberry, riri. Non, c'est pas comme ça. Du tout. Il y a une fragilité qui est exprimée non seulement par le propos, mais aussi par le dessin. Et en même temps, il y a toute la science de Moebius qui est là, mais c'est Moebius qui s'assoit à côté de vous et qui vous chuchote à l'oreille. C'est absolument dément, quoi.
Que ce soit dans une bande dessinée en tant que Moebius ou à travers d'autres histoires, j'ai une qualité d'imaginaire qui est rigolote, qui est intéressante, qui permet de créer un certain nombre de situations séduisantes, mais je suis pas, j'ai jamais été capable de faire franchement rire ou de faire franchement pleurer. J'ai jamais pu vraiment dégager un sens clair à travers mes histoires. Je suis pas un véritable écrivain, vous voyez, je suis pas un homme de lettres. J'aurais aimé être quelqu'un qui émeut. Voyez, dont l'œuvre émeut, pas moi, mais l'œuvre, hein, qui est du sens, qui est. Alors, il y a plein de sens, mais au pluriel. Et on ne sait jamais que c'est au pluriel parce que c'est le mot est invariable.
Ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est qu'il explore des spécificités de la bande dessinée. C'est-à-dire que on voit bien que cet homme a un imaginaire et une maîtrise graphique qui lui aurait permis de faire du dessin animé, du jeu vidéo. D'ailleurs, il l'a fait. Mais ce qui l'intéresse, c'est tout de même la notion de la séquence, la notion de la transcription de l'écoulement du temps dans l'espace, puisque c'est vraiment la définition de la bande dessinée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on découpe case après case des actions pour montrer que le temps passe, que le mouvement se déroule, etc. etc. Enfin, et dans Inside Moebius, ce qui est clair et net, c'est que ce qu'il raconte, ce qu'il décrit, est totalement impossible à retranscrire dans un autre média que la bande dessinée.
Je pense que tout ce qu'il a fait en tant que Moebius, toutes ces grandes séries, toutes ces grandes œuvres, des choses magnifiques, formidables, ça ne tendait qu'à arriver à cette quintessence qui est Inside Moebius en 6 volumes. C'est l'essentiel de toute l'expérience, de toute la vie, de toutes les croyances, de toutes les œuvres de Jean Giraud. Et c'est curieux parce que on sait que c'est pas son plus gros succès, on sait que c'est très méconnu. Inside Moebius n'a jamais ni été très discuté, ni n'a vendu beaucoup. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il y a là-dedans, quand on le prend en entier, à la fois la liberté absolue du créateur qui s'amuse avec toutes ses créatures, qui s'amuse avec ses états mentaux, ce côté très ludique et puis ce côté complètement farfelu. Et puis il y a aussi de l'autre côté tout le sérieux, la maîtrise graphique, tantôt l'épure, tantôt le foisonnement, tout ce que Jean Giraud a emmagasiné pendant 60 ans de vie, c'est dans Inside Moebius.
Cela, c'est très vite. Par exemple, Inside Moebius, une fois qu'il a désappris à dessiner pour faire Inside Moebius, il a peiné pour faire le 3 et le 4. Il fallait qu'il finisse, mais ça ne l'intéressait plus. L'Incal, je pense qu'il en a eu marre au deuxième. Il disait, c'est Jean Lefebvre en science-fiction, c'est Long Tomorrow que j'ai déjà fait, c'est super sympa, j'adore Jodo. À partir du 2, il dit, ouais, mais ça marche vachement bien, il faut que je fasse le 3, le 4. Et quand il a fait le 5, il a déclaré forfait. C'est devenu un blueberry pour lui. Un truc qui marchait. Je dis pas qu'il voulait faire des trucs qui marchent pas. Je pense qu'il a créé une situation où c'est la génération suivante, les Sphar et compagnie, qui en ont profité pour faire des albums à chaque fois de remise en question totale. Que lui, il était entre deux mondes. Un pied dans le passé, définitivement, par son âge et par ses goûts, et un pied dans le futur lointain, parce qu'il était le plus avancé, et qu'il vivait ça mal. Alors il y avait dichotomie de ça, dichotomie Giraud Moebius, et c'était dans cet équilibre au-dessus du vide qui s'alimentait.
Merci à Numa Sadoul, auteur de Mister Moebius et Docteur Gir, et d'Entretien avec Moebius.
Comme Okuzai avait fait jusqu'à la fin de sa vie, je crois qu'il est devenu aussi un maître qui transcende absolument tous les genres.
À Jean-Pierre Dionnet, cofondateur de Métal Hurlant.
Oui, on dirait qu'il est mort, mais je crois que c'est ce qu'il veut.
À Charles Berberian, auteur de bande dessinée.
Oh, on n'a pas parlé du bandard fou.
À Benoît Mouchard, historien de la bande dessinée et éditeur.
Jamais de ma vie. Je n'ai vu quelqu'un qui dessinait aussi bien les lacets de chaussures.
Merci aussi à Laurence Genepin, à Aude Vassan de Lina, ainsi qu'à l'équipe de Mauvais Genre, François Angelier et Claire Martin Dugard. Mixage Adrien Roch, un documentaire de Victor Massé de Lépinay, réalisé par Ghislaine David.